écoutez Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson. Que Myriam Segal au FM 93.
Mais oui, il y a plein de monde qui nous ont écrit que c'était Myriam Segal. D'ailleurs, il y en a qui ont massacré le nom. C'est pas la première fois que ça arrive.
Non.
On la rejoint en direct de sa quarantaine à, et je la cite, à Saint-Léon-Profond.
Oui.
Allô, Myriam.
Allô, je vais me faire haïr par tout le monde ici, là.
Ah, mais déjà, je suis surpris que la radio rentre. C'est où ça, Saint-Léon-Profond?
Ça s'appelle en réalité La Brèque. Autrefois, ça s'appelait Saint-Léon-la-Brèque.
Okay.
C'est sur le bord d'un lac. C'est un joli village, mais c'est loin. C'est à 10 km au nord de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire étant à mi-chemin, non, même pas à mi-chemin, entre Allemand et quelque part entre Allemand et Jonquière.
Okay. Quelque part entre Alma et Jonquière à 10 km.
Okay. Mais dans le fond, c'est perdu en s'en allant vers le lac Saint-Jean.
OK, je comprends.
C'est ça. Ça fait partie du lac Saint-Jean, la Brèque.
Ah oui. Là, Myriam, je suis vraiment content d'avoir de tes nouvelles. J'ai suivi, comme plein d'auditeurs d'ailleurs, j'ai suivi ton périple à travers les États-Unis via le petit journal de bord que tu publiais sur sur ta page Facebook. Puis, il va falloir qu'on parle un peu de ton voyage. Mais avant, comment se passe la quarantaine? As-tu des casse-têtes en masse, un peu de foie de veau, du scotch, tout est correct?
Ben, on est en train de dégager un espace dans le chalet pour que je puisse faire du casse-tête, là, mais je dois te dire que je trouve ça extrêmement pénible. C'est difficile, une quarantaine, surtout quand tu reviens, je pense, d'un road trip comme le mien, où tous les jours, je changeais de paysage, où je découvrais de nouvelles choses, où je rencontrais du nouveau monde. Tu sais, le contraste est, disons, brutal. Cependant, on est bien installé. On a un beau petit chalet. On a des amis qui nous avaient fait une épicerie qui ont laissé sur leur galerie quand on est arrivé, on a ramassé ça sans toucher aux rampes de l'escalier. Tu sais, j'ai téléphoné à ma sœur où se trouvent mes affaires, puis elle m'a préparé un beau petit sac avec tout mon linge d'hiver que j'avais abandonné pour de bon. On est bien installé, on a un bon réseau, puis si jamais il nous manque quelque chose, on va appeler quelqu'un à Alma, puis il va nous laisser ça sur sa galerie, puis on va repartir avec comme des voleurs, là, mais ça n'empêche que l'inactivité obligée, c'est un peu pénible.
Comment s'est passé ton retour, puis comment s'est pris la décision de revenir? Parce que pendant un instant, là, nous, on s'occupait bien de nos affaires au Québec, on regardait un peu comment ça se passait ailleurs. Les États-Unis n'ont pas été épargnés. Donc, toi, dans ton road trip, là, à partir de quel moment tu as dit, ouais, là, c'est pas mal maintenant ou jamais, il faut que je revienne?
Ben, d'abord, il fallait que je revienne dans des zones habitées. On était à Death Valley où ni le téléphone ni le Wi-Fi ne rentraient quand on a commencé à parler de revenir éventuellement. On avait quitté Las Vegas. Mon chum m'a rejoint à Las Vegas, puis on a quitté rapidement. Moi, je déteste cette ville-là, mais. Et ça vaut la peine pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu de le voir une fois, là. On s'est en allé dans des déserts, etc. Puis la caractéristique des parcs nationaux, c'est que le Wi-Fi et le téléphone ne rentrent pas. Donc, tu n'as de nouvelles vraiment que quand tu en sors, si tu as la chance de trouver une place où ça rentre bien. Puis comme j'étais pas vraiment empressé que ça rentre bien, j'ai été relativement insensible, d'autant plus qu'aux États-Unis, ils étaient dans une espèce de microclimat où eux autres, ça leur arriverait pas. Les parcs nationaux se sont dépêchés d'écrire qu'eux autres restaient ouverts. Les parcs du Texas nous ont envoyé des lettres pour nous dire « Inquiétez-vous pas, nous autres, on va rester ouverts quoi qu'il arrive, etc. » C'est bien qu'on s'est dit, plutôt que de faire des hôtels puis de traverser des villes où là, la pandémie a l'air de sévir, on est mieux de rester dans nos déserts tranquilles.
C'est ça, loin des gens, puis loin du virus, puis loin de la contagion.
Ouais, parce que le voyage de retour est périlleux, puis je regarde, j'ai une amie qui est pognée au Mexique actuellement, puis elle aussi hésitait, parce que dans le petit patelin où elle se trouvait, le danger est moins grand que si elle s'en va à Puerto Vallarta, puis qu'elle prend des avions, puis qu'elle va dans des hôtels. Fait que la trajectoire de retour est plus dangereuse, je dirais, que l'endroit où on était. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, bon ben, là maintenant, les parcs commencent à fermer, on va avoir de la difficulté à trouver des toilettes, on va avoir de la difficulté à maintenir un minimum d'hygiène, les campings, c'est pas certain que ça va rester ouvert. Là, il est temps qu'on prenne le risque, d'autant plus que Là, maintenant, les États-Unis étaient plus sensibles et le risque de voyager en plein d'été était moins grand également. Alors, j'ai tenu le plus longtemps possible en sécurité dans les déserts, mais à un moment donné, tu te dis, bon, ben, il va falloir traverser des grandes villes. Maintenant qu'ils sont sensibles, mais encore ouverts, faisons-le.
Mais initialement, Myriam, tu devais revenir quand? Tu es partie en début janvier?
Le 30 juin.
Oh, juste le 30 juin, alors c'est...
Ça t'écourte le voyage d'une vie, ça, hein?
Ouais.
Oui, oui, oui. Puis écoute, moi, j'ai quand même eu 9 semaines de beau voyage. Là,
ben
puis
oui.
Mon conjoint, lui, il est arrivé le 4 mars, puis on est reparti le 20.
Oh.
lui, il n'a pas eu le voyage qu'il espérait, ça, c'est certain.
Mm-hmm.
Mais c'est un cas de force majeure.
Oui, on comprend, oui.
Mais qu'est-ce que tu as remarqué?
Je revenais, et normalement, en revenant le 30 juin, je repartais le 15 août pour aller faire Compostelle en Europe. Je peux te dire que ça aussi, c'est compromis, là.
Mm. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est clair. On sait pas, on va être où rendu dans ces dates-là. Mais comme tu étais aux États-Unis, tu étais sur place, qu'est-ce que tu as remarqué de l'attitude des Américains quant à cette crise-là? Est-ce qu'elle était à l'image de l'administration qui, au début, minimisait beaucoup la patente jusqu'à ce qu'à un moment donné, on commence à se rendre compte qu'on n'avait pas le choix de prendre ça au sérieux? Qu'est-ce que tu as remarqué de l'attitude des gens?
Les Américains, quand tu leur donnes un ordre, ils obéissent. Ils sont extrêmement disciplinés pour ça. Alors, quand le Nouveau-Mexique a dit « On ferme les restaurants ou vous organisez pour qu'il y ait une table sur deux de fermée dans les restaurants », ça a été fait de façon instantanée et impeccable. Mais il faut comprendre qu'ils n'ont pas tout à fait le même système que nous autres. Pour eux autres, là, s'ils arrêtent l'économie, la plupart des citoyens ont une assurance santé qui dépend de leur travail. Si tu mets à pied quelqu'un, il n'y a plus d'assurance santé. Ça fait que l'hésitation à arrêter l'économie chez eux est normalement beaucoup plus grande que chez nous, parce que ça revient à envoyer un paquet de monde vers les hôpitaux publics qui sont minoritaires aux États-Unis.
Mmh. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça peut bien compliquer.
On peut juger là, durement Trump, puis effectivement, il n'est pas ce qu'il y a de plus convaincant. J'ai entendu à la télé quelques entrevues avec son espèce de ratio Arruda à lui, là, le docteur Fauci. Puis le docteur Fauci, il tient la tête à deux mains par bout. Hein? Mais il y a quand même une réalité qui est différente de la nôtre. Nous autres, si tu n'as pas de job, tu vas être soigné dans les hôpitaux. Eux autres, s'ils n'ont pas de job, ils ne sont pas soignés.
Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce que t'as senti par rapport à l'attitude des Américains à l'égard de l'administration publique? Parce que, vois-tu, ici, tu constates assez rapidement que les gens sont en admiration devant le docteur Arruda, trouvent que François Legault fait un travail extraordinaire. Il y a des sondages qui donnent à l'heure actuelle des appuis soviétiques à François Legault. Qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les Américains pensaient de l'administration puis de son travail?
Honnêtement, j'ai pas eu suffisamment de contact avec les Américains pour répondre à cette question-là. Puis ils sont pas uniformes. Hein. Texas, ils l'aiment bien. Au Texas, où tu peux, écoute, au Texas là, tu fais 50 000 sans rien voir, sans voir de maison, sans voir de résidence, sans voir de restaurant, sans voir de station-service. Alors, dans ces régions-là où les gens sont particulièrement isolés par rapport les uns aux autres, ils trouvent que c'est bien raisonnable ce que Trump fait. Dans des régions comme New York, où ils sont collés les uns sur les autres, dans les grandes villes, c'est différent. Puis ce qu'on est en train de consommer aux États-Unis avec cette crise-là, c'est une profonde scission entre le rural et l'urbain. Les villes, là, c'est un autre monde. Puis l'Amérique rurale ou l'Amérique profonde, si tu veux, c'est un monde totalement différent. Et ces deux mondes-là, actuellement, il y en a un qui est insatisfait et l'autre est satisfait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je me souviens, quand tu étais revenu de ton dernier road trip, tu me racontais le sentiment encore bien, même pas juste le sentiment, mais le fait qu'il y a encore bien des Américains qui subissent encore aujourd'hui les conséquences de la crise économique de 2008. Puis leur espèce de sentiment d'être complètement délaissé par la classe politique, c'est ce qui a fait élire Donald Trump. C'est encore la même espèce de scission entre les villes puis les régions rurales.
Exact. Exact. C'est, il n'y a pas une Amérique. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a 50 États. À peu près tous les États sont différents les uns des autres. Tu vas, tu rentres en Californie, tu rentres dans le gouvernement. T'as un gouvernement envahissant. Tu rentres au Texas, qui est à un État de la Californie, là. Puis là, tu fais tout ce que tu veux en autant que tu n'y pas aux autres. Au Texas, tu roules, les limites de vitesse sur des routes simples qui croisent, là, c'est 75 000 à l'heure.
Les boys.
Tu rentres au Nouveau-Mexique, t'es sur la même route. La route double, il y a un terre-plein, il y a deux voies de chaque bord, ça tombe à 70 000 à l'heure, t'es au Nouveau-Mexique. Les mentalités sont différentes d'un état à l'autre.
Hey Myriam, maintenant que t'es revenue puis que t'es en quarantaine, moi c'est le moment où j'ai su que je pouvais arrêter de me sentir mal de t'appeler pour te parler parce que je voulais pas te déranger dans ton grand décrochage, mais le moment où je me suis dit ok ouais là je pense que je peux l'appeler, c'est quand j'ai vu que tu commençais à faire des publications sur Facebook sur le travail de Justin Trudeau, je me suis dit ah yes, il en reste encore un peu, il reste encore un peu de gaz.
Ouais, il est pas fort notre Trudeau. En fait, il est très mauvais en communication.
Ben pourtant, pourtant, c'est la seule affaire qu'on pensait qu'il serait capable de faire, parce qu'au niveau des prises de décision, il n'y a personne qui est vraiment surpris, mais même au niveau de la communication, ça fait dur.
Ben, les deux dernières décisions qu'il a prises, son programme d'urgence et son programme d'aide à l'emploi. Ouais. L'aide à l'emploi, ça arrive un peu tard, là, parce que les grosses mises à pied ont été faites là, dans la plupart des commerces. Là. C'est douteux que quelqu'un va... Je ne suis pas un entrepreneur, mais j'ai des doutes que les entrepreneurs qui ont fait la mise à pied vont rappeler leurs employés. Là, surtout dans la restauration, où ça risque d'être plus profitable d'avoir le 2 000 $ par mois que d'avoir le salaire minimum en excluant les pourboires. Mais, en tout cas, l'exemple qu'il a pris n'était pas bon, mais je trouve que les deux derniers programmes qu'il a annoncés sont bons, sauf qu'il est tellement mauvais dans sa façon de les annoncer que les gens ont l'impression que ça leur échappe. Ils comprennent pas. Tu sais, c'est comme son message, là, restez dans la maison. Restez dans la maison, oui, mais prenez l'air quand même, là.
Ouais, c'est ça, faut aller prendre une marche quand même. Puis ça, je sais que d'après moi, t'es capable. T'es à la bonne place pour ça. Saint-Léon-Profond, il doit avoir des milles et des milles à marcher. J'ai jamais croisé personne.
Oui, mais c'est un peu quand même comme marche, là. Ouais. Tu marches, une ligne droite. Hey. C'est pas très excitant.
Merci Myriam d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter ton voyage puis avoir pu partager ça avec nous. Les auditeurs sont super contents. Il y en a plein qui sont contents d'avoir de tes nouvelles. Merci beaucoup, Myriam.
Je vous suis et bon courage, surtout à ceux qui ont perdu leur emploi en cette période.
Ouais. Merci, merci. Salut Myriam Segal. À qui on vient de parler en direct de Saint-Léon-Profond.
Oui. En direct de sa voiture, hein? Assise dans la voiture pour être sûr d'avoir le plus de réseau possible.
Ah ouais, bon? J'ai pas voulu niaiser avec ça, mais elle dit quand t'as un bon réseau, j'avais du goût de dire un réseau Wi-Fi moyen, mais un bon réseau de personnes. Ah.